2. Suis le lapin blanc. Transcription YT. Synthèse de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Créer ou critiquer. Une femme se réveille à 3 h du matin. Pas à cause d'une insomnie, ni d'un cauchemar. Elle se réveille en pensant à quelqu'un qu'elle déteste. Le visage de cette personne apparaît dans l'obscurité de la chambre comme une obsession silencieuse. Elle prend son téléphone portable et, presque sans s'en rendre compte, elle parcourt les réseaux sociaux de cette personne, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour justifier la colère qu'elle ressent. Une nouvelle photo, un commentaire politique, une opinion différente de la sienne. Elle le trouve. Elle ressent une étrange satisfaction. Elle se rendort. Cette scène se répète dans des millions de foyers, chaque nuit. Des gens qui se réveillent non pas pour ceux qu'ils aiment, mais pour ceux qu'ils méprisent. Consacrant la première et la dernière pensée de la journée non pas à leurs rêves, mais à leurs ennemis. Construisant brique par brique un hôtel invisible où ils déposent toute l'énergie qu'ils pourraient utiliser pour créer quelque chose qui leur est propre. Il y a une vérité troublante que personne ne veut admettre. Nos ennemis occupent plus d'espace mental que nos proches. Nous pensons plus à eux, nous parlons plus d'eux, nous rêvons plus d'eux. Sans nous en rendre compte, ils sont devenus les divinités secrètes de notre existence. Des divinités négatives que nous vénérons par la haine, que nous nourrissons de notre indignation, que nous maintenons en vie par notre mépris. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi consacrons-nous tant de nous-mêmes à ce que nous prétendons rejeter? La réponse se trouve dans une découverte philosophique brutale. Nous avons besoin de nos ennemis. Pas par accident, pas par faiblesse, mais par un profond besoin existentiel. Ils ne sont pas des obstacles sur notre chemin. Ils sont le chemin lui-même. Ils ne sont pas des interruptions dans nos vies. Ils sont devenus la raison de nos vies. Friedrich Nietzsche a vu cela avec une clarté perçante. Il a réalisé que derrière chaque grande haine se cache une petite impuissance déguisée. Que chaque ennemi que nous créons est en fait un miroir sur lequel nous projetons non pas ce que nous méprisons le plus au monde, mais ce que nous craignons le plus de découvrir en nous-mêmes. Ceci n'est pas une histoire sur les autres. C'est une histoire sur l'architecture secrète de notre propre identité. Sur la façon dont nous construisons qui nous sommes, non seulement à travers ce que nous choisissons d'être, mais principalement à travers ce que nous choisissons de détester. Et sur le prix terrible que nous payons pour ce choix. Car il y a quelque chose d'encore plus troublant que d'avoir besoin d'ennemis pour exister. Découvrir qui nous serions s'ils disparaissaient, tout simplement. La routine sacrée de la haine. Chaque matin, avant même de prendre son café, il sait déjà contre qui il va se battre aujourd'hui. Il ouvre son téléphone et ils sont là. Les politiciens qui ont détruit le pays. Les influenceurs qui répandent la futilité. Les anciens collègues qui ont obtenu le succès qu'ils méritaient. Ce sont des visages familiers. Une galerie d'adversaires qu'il cultive avec le soin d'un jardinier. Il ne s'en rend pas compte, mais il a développé une routine sacrée. Il se réveille, vérifie si ses ennemis existent toujours, ressent un soulagement lorsqu'il le confirme, et alors seulement il peut commencer sa journée. C'est comme si leur présence dans le monde était une garantie qu'il existe lui aussi. Nietzsche a appelé cela la morale des esclaves, une manière de vivre qui ne peut définir ce qui est bon qu'à travers ce qu'elle considère comme mauvais. C'est comme avoir une identité entièrement construite sur la négation. Je suis tout ce qu'il n'est pas. Je suis vertueux parce qu'il est corrompu. Je suis intelligent parce qu'il est stupide. Je suis authentique parce qu'il est faux. Mais quelque chose de plus subtil se joue ici. Cet homme ne déteste pas seulement les actions de son ennemi. Il déteste son existence même. Remarquez comment cela fonctionne en pratique. Quand il voit une nouvelle sur la corruption, il ne ressent pas seulement de l'indignation, il ressent une étrange satisfaction. « Je le savais », pense-t-il. « J'ai toujours su qu'ils étaient comme ça. » C'est comme si le mal dans le monde était une confirmation de sa propre bonté. Nietzsche a compris que cette dynamique n'est pas accidentelle. C'est un système de valeurs complet. Une religion inversée où le sacré n'est pas dans ce que vous aimez, mais dans ce que vous détestez. Où la prière n'est pas une action de grâce, mais une malédiction. Où l'autel n'est pas dédié à Dieu, mais au diable que vous vous êtes choisi. Et comme toute religion, celle-ci a aussi ses rituels, les discussions sans fin sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, les conversations au travail où le sujet principal est toujours le même, le monde est perdu. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette dynamique. Lorsqu'ils critiquent les autres pour leur égoïsme, leur quête de pouvoir, leur désir de se démarquer, Il critique exactement ce qu'il désire lui aussi mais n'a pas le courage d'admettre. L'ennemi devient le réceptacle de tout ce que nous rejetons en nous-mêmes. Nous projetons notre propre ombre sur lui et nous nous sentons ensuite purs de la haïr. C'est une opération psychologique brillante. Nous transformons notre envie en indignation morale, notre impuissance en supériorité éthique, notre médiocrité en vertu. Et le meilleur de tout, c'est que nous le faisons sans avoir à changer quoi que ce soit en nous. Nietzsche a vu que cette façon d'exister est en fait une fuite. Une fuite face à la responsabilité de créer ses propres valeurs. Il est plus facile de se définir contre quelque chose qu'en faveur de quelque chose. Cette découverte révèle quelque chose d'encore plus troublant sur notre nature. Nous ne sommes pas seulement des gens qui trouvent occasionnellement des ennemis. Nous sommes des machines à produire des ennemis. Nos esprits fonctionnent comme des usines qui ont constamment besoin de trouver de nouvelles cibles pour notre mépris. Car sans eux, nous serions confrontés à une question terrible. Qui sommes-nous vraiment? L'alchimie du ressentiment. Elle avait 8 ans quand elle a découvert le pouvoir secret du ressentiment. À l'école, une camarade a remporté le prix de la meilleure élève. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle n'a pas pleuré sa défaite. Elle a construit un récit, la fille n'avait gagné que parce que ses parents avaient de l'argent, parce que les professeurs avaient des favoris, parce que le monde était injuste. C'était la première fois qu'elle transformait sa douleur en supériorité morale. Et ça a marché. 30 ans plus tard, elle continue d'utiliser la même formule. Chaque promotion qui n'est pas venue, chaque relation qui s'est terminée, chaque rêve qui ne s'est pas réalisé, tout est transformé en ce même récit réconfortant, le problème, c'est le système, pas elle. Nietzsche a appelé cela le ressentiment, mais pas dans le sens habituel du terme. Pour lui, le ressentiment est toute une philosophie de vie. C'est une manière d'exister qui transforme chaque échec personnel en victoire morale. C'est le talent de convertir l'impuissance en indignation, la médiocrité en vertu. La personne du ressentiment n'a besoin de rien accomplir car elle a déjà accompli la chose la plus précieuse de toutes, la certitude d'avoir raison. Pendant que d'autres courent après des succès vulgaires, ils possèdent déjà le trésor suprême, la pureté morale. Ils sont pauvres mais honnêtes. Ils sont des ratés mais ils ont de l'intégrité. Ils sont invisibles mais ils ont raison. Observez comment cela fonctionne. Quand ils voient quelqu'un qui réussit, ils ne ressentent pas d'envie. Ils ressentent de la pitié. Le pauvre, pense-t-il, il a vendu son âme. Quand ils voient quelqu'un d'heureux, ils ressentent de la supériorité. Ils sont heureux parce qu'ils sont aliénés. Moi, je souffre parce que je vois la réalité. C'est une opération alchimique parfaite. Elle transforme le plomb en or, la défaite en victoire. Si cette réflexion vous dérange, c'est parce qu'elle fonctionne. Le malaise ne vient pas d'entendre quelque chose de faux. Il vient de reconnaître quelque chose de vrai. Le ressentiment ne justifie pas seulement notre médiocrité, il la rend nécessaire. Car si nous commencions à gagner, à créer, à conquérir, nous perdrions notre supériorité morale. C'est pourquoi la personne du ressentiment sabote secrètement et inconsciemment ses propres chances. Elle a besoin de continuer à perdre pour rester vertueuse. Elle a besoin de continuer à souffrir pour rester supérieure. C'est une prison parfaite. Les barreaux ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Mais utiliser la clé signifierait renoncer à la seule chose qui vous donne votre identité, la certitude réconfortante que le monde est responsable de tous vos échecs. L'ennemi dans le miroir. Un homme passe 40 ans de sa vie à critiquer les politiciens corrompus. Un jour, on lui offre un petit poste au gouvernement. En 6 mois, il fait exactement ce qu'il critiquait. Quand quelqu'un lui fait remarquer la contradiction, il se sent irrité. « C'est différent, dit-il, je le fais pour les bonnes raisons. Je le mérite. » Cette histoire révèle quelque chose de dévastateur sur la nature humaine. Nous ne détestons pas nos ennemis parce qu'ils sont différents de nous. Nous les détestons parce qu'ils sont exactement comme nous. Ils font ouvertement ce que nous ferions dans les mêmes circonstances, mais nous n'avons pas le courage de l'admettre. Nietzsche a appelé cela la volonté de puissance, l'impulsion fondamentale de tout être vivant à croître, dominer, s'étendre. Mais quand cette volonté ne peut pas s'exprimer directement, elle s'inverse. Elle devient la volonté de puissance morale. Au lieu de chercher le pouvoir réel, nous cherchons le pouvoir symbolique. Au lieu de dominer par la force, nous dominons par la vertu. La personne du ressentiment ne veut pas moins de pouvoir que ses ennemis. Elle veut plus de pouvoir. Mais comme elle ne peut pas l'obtenir par les moyens traditionnels, elle invente un nouveau type de pouvoir, le pouvoir de juger. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. La personne du ressentiment ne veut pas seulement ce que ses ennemis ont. Elle veut être exactement comme eux. Comme elle ne peut pas l'admettre, elle projette ses désirs sur les autres et les attaque avec violence. C'est pourquoi sa critique est toujours si spécifique, si intime. Elle sait exactement comment fonctionne la corruption parce qu'elle a fantasmé mille fois d'être corrompue. Ses ennemis ne sont pas des étrangers. Ce sont des versions alternatives de lui-même. Des versions qui ont eu le courage de faire ce qu'il n'a pas fait. Et pour cette raison même, des versions qu'il déteste et envie avec la même intensité. Les haïr est un moyen de maintenir l'illusion que nous sommes différents, que nous sommes meilleurs, que nos limites sont des choix vertueux plutôt qu'une simple lâcheté. Mais cette découverte nous mène en territoire encore plus sombre. Si nos ennemis sont des projections de nous-mêmes, alors les détruire symboliquement n'est pas seulement une attaque contre eux. C'est une attaque contre notre propre potentiel. C'est une façon de nous mutiler, de nous maintenir petits, de nous assurer que nous ne deviendrons jamais ce que nous pourrions vraiment être. La liberté par-delà le bien et le mal. Il y a un moment dans la vie de chaque être humain où il se regarde dans le miroir et reconnaît le visage de l'ennemi qu'il déteste le plus. Ce moment est dévastateur car il signifie que toute notre identité basée sur la supériorité sur les autres s'effondre d'un coup. Nous découvrons que nous ne sommes pas les héros de notre propre histoire. Nous ne sommes qu'un personnage de plus dans le même drame humain que nous avons tant critiqué. Nietzsche a appelé ce moment par-delà le bien et le mal. Non pas parce qu'il n'y a pas de différence morale, mais parce que nous découvrons que la ligne entre la vertu et le vice ne passe pas entre nous et les autres. Elle traverse chacun de nous. Lorsque cela se produit, deux choses peuvent arriver. La première est le désespoir total. Mais il y a une seconde possibilité, bien plus rare et bien plus dangereuse, la liberté. La liberté de cesser de gaspiller de l'énergie à haïr des versions alternatives de nous-mêmes. La liberté de cesser de construire notre identité sur le déni des autres. La liberté de créer, enfin, quelque chose qui nous est propre. Cette liberté fait peur car elle signifie renoncer à la certitude que nous sommes du bon côté. Elle signifie accepter qu'il n'y a peut-être pas de côté. Cela ne veut pas dire tout pardonner ou tout relativiser. Cela signifie quelque chose de bien plus radical, cesser d'utiliser le mal des autres comme excuse pour notre propre médiocrité. Cela signifie assumer la terrible et libératrice responsabilité de créer nos propres valeurs, d'affirmer notre propre vie, de dire oui à ce que nous voulons être au lieu de dire non à ce que sont les autres. Pour ces rares individus qui parviennent à franchir ce gouffre, une possibilité unique s'ouvre. La possibilité d'une vie créatrice au lieu d'une vie simplement réactive. La possibilité de construire au lieu de simplement détruire. La possibilité d'aimer au lieu de simplement haïr. Peut-être que la vérité la plus troublante de toutes est celle-ci, que nos ennemis n'ont jamais été le problème. Le problème a toujours été notre besoin d'en avoir. Et le jour où nous parviendrons à nous en passer, nous découvrirons quelque chose qu'ils ont toujours su et que nous avons toujours nié. Que nous sommes exactement comme eux. Et que cette égalité n'est pas une condamnation, mais une libération. Quel ennemi avez-vous créé pour éviter de vous regarder en face? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous regardez les vidéos. Vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller avec ça? Si vous voulez passer à l'étape suivante et appliquer véritablement ce savoir à votre vie, les codes du lapin blanc sont prêts pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est une décision. Le choix vous appartient.